Very Good Bowie Trip.
Tout un été en compagnie de David Bowie. 9 épisodes pour raconter le parcours d'un artiste insaisissable qui n'a jamais cessé de mourir pour mieux renaître.
Very Good Bowie Trip. Les 9 vies de David Bowie.
Aujourd'hui, avant-dernière étape déjà de notre voyage, durant laquelle nous allons explorer une des périodes les plus surprenantes du parcours qu'a suivi notre héros. Une des plus créatives aussi de sa vie, où au tournant des deux siècles, sa musique et ses chansons ont su évoquer toute l'anxiété que suscitait l'émergence d'un monde nouveau. Le bruit, la fureur, les accélérations, les convulsions et la folie, tout était dans la musique de David Bowie et aussi ce désir de délivrance que sa voix et ses mots ont toujours su exprimer. C'est parti.
Secrets travel. I start to believe if I were to leave, pink sky, the man shakes his hands held high. Cruise me beyond, cruise me babe. A plan beneath, beyond, beyond, beyond. No return.
Deranged, un des sommets de l'œuvre de David Bowie, au seuil de cette période qui fut pour lui celle d'une renaissance artistique inattendue. Une chanson qui figure dans un album intitulé Outside, sorti en 1995. Alors pour être honnête, je ne l'ai découverte que 2 ans plus tard parce qu'elle figurait dans la musique du film de David Lynch, Lost Highway, une BO assemblée par Lynch lui-même évidemment avec son collaborateur Trent Reznor du groupe de rock industriel américain Nine Inch Nails. Et cette chanson signée Bowie m'a soudainement réveillé. Le génie de David Bowie s'est rappelé à moi, un génie que j'avais perdu de vue et peut-être même sous-estimé. Sans doute n'étais-je pas le seul. Grâce à ses chansons des années 80, les plus connues, Let's Dance, Modern Love, eh bien, David Bowie s'était glissé dans la peau d'un chanteur populaire et, j'allais dire, presque banal. Un crooner, chic et bronzé, cool et funky, tiré à 4 épingles, à l'universelle notoriété, aimé de tous. Bien sûr, beaucoup se seraient reposés sur de tels lauriers, mais pas lui. Comme Bowie allait le déclarer plus tard, mais comment fait Mick Jagger, à son âge, pour chanter Brown Sugar, soir après soir, moi, dit-il, ça m'ennuierait à mourir. Je vous l'ai raconté lors de l'épisode précédent. Pour ressusciter, artistiquement parlant, David Bowie a choisi de descendre de son piédestal et même de briser sa statue. Il s'est, pour ainsi dire, miniaturisé, devenant le simple chanteur d'un bruyant groupe de rock dénommé Tin Machine, auteur de 2 albums. Un groupe qui, en 1989 puis en 1991, s'est produit dans de petites salles, faisant crépiter des sons grunge et industriels. David Bowie a ensuite enregistré à New York un album de chansons au son à la fois moderne et jazzy, un enregistrement qu'il a, d'une certaine façon, remis en selle. Sa vie va alors prendre un tournant. Bowie, à 40 et quelques années, a en effet rencontré la femme de sa vie, Iman. Un mannequin d'origine somalienne, de 8 ans plus jeune que lui, déjà célèbre. Elle a notamment défilé pour Yves Saint-Laurent. Iman est issue d'une certaine élite, hein, son père est ambassadeur et sa mère gynécologue, et l'allure aristocratique et le charisme de cette femme ont subjugué Bowie, qui ne tardera pas à la demander en mariage. Aux noces, célébrées à Rome en 1992, Bowie a invité son vieil ami londonien, son vieil ami et collaborateur, Brian Eno, celui qui fut naguère le compagnon et l'artisan de ses aventures artistiques les plus expérimentales à Berlin et ailleurs. L'idée d'une nouvelle collaboration s'amorce ainsi entre les deux hommes. Ils vont tracer ensemble de nouvelles pistes, dont la première, un détour, par les arts visuels. Eno fait en effet participer Bowie à un projet destiné aux habitants de la ville de Sarajevo, qui est alors assiégée par l'armée serbe. 40 musiciens doivent chacun créer une œuvre pour témoigner de leur solidarité avec la population. Bowie offre des dessins de Minotaure, une créature mythologique qui l'a toujours obsédé. Mais est-ce franchement un détour ? David Bowie, d'ailleurs, l'a dit et répété. Sa grande ambition, jeune homme, était de devenir peintre. Il a même prétendu un jour que s'il avait choisi de devenir chanteur, c'est tout simplement parce que ça rapportait beaucoup plus d'argent. Son intérêt pour l'art n'a jamais faibli, et tout au long de sa vie, il ne cessera de dessiner et de peindre. David Bowie a un goût très prononcé pour les peintres figuratifs du XXe siècle, en l'occurrence ceux de l'expressionnisme, au style grotesque et grinçant. Allemand, bien sûr, c'est là que le mouvement est né consécutivement aux horreurs de la Première Guerre mondiale, Dix, Gross, Beckmann. Mais la peinture expressionniste s'est aussi développée en Grande-Bretagne et Bowie est un collectionneur passionné de ses œuvres. En 1994, il devient membre du comité éditorial d'une jeune revue d'art britannique, Modern Painters, siégeant parmi d'éminents professeurs et historiens de l'art. À ce titre, David Bowie réalise cette année-là une interview de son illustre voisin du canton de Vaud, en Suisse, le peintre Balthus, alors âgé de 86 ans. Il racontera d'ailleurs avoir été extrêmement intimidé en cette circonstance, au point d'être resté un très long moment devant sa porte, sans oser sonner. Peut-être est-ce dans ce même cadre journalistique que la même année 1994, Bowie accomplit avec son ami et collaborateur Brian Eno un voyage qui se révélera déterminant dans la genèse de l'album Outside. Les deux hommes se rendent en Autriche, dans une petite ville du nom de Klosterneuburg, située au nord de Vienne. Dans la banlieue de Maria Goging, il existe une clinique psychiatrique hors du commun. Dans une aile de cette institution, on expose les œuvres qu'ont réalisées après la Seconde Guerre mondiale, les malades, les fous, comme on n'hésitait pas à les désigner encore. Des œuvres qui ont été créées à l'initiative d'un psychiatre visionnaire, Léo Navratil. Les malades dont il avait la charge avaient subi durant la guerre d'effroyables traumatismes. Des médecins autrichiens, pénétrés des doctrines nazies, s'étaient livrés sur eux à de monstrueuses expériences, administrant à des centaines de patients des traitements médicamenteux expérimentaux. Les chocs électriques, les viols étaient courants, des centaines avaient péri. On peut imaginer dans quel état se trouvaient les survivants dont le docteur Navratil avait la charge. Celui-ci a eu une idée extraordinaire, il leur a suggéré d'expulser par l'expression artistique, littéraire, témoignages et poèmes, ou bien graphique, dessins et peintures, toutes les horreurs qui les hantaient. Navratil a ainsi publié en 1955 un livre en allemand consacré à cette expérience, Schizophrénie et art, traduit une vingtaine d'années plus tard en français. Et au début des années 80, Navratil a décidé de transformer toute une aile de la clinique psychiatrique en galerie d'exposition ouverte au public, pour y présenter cet art qu'en anglais on appelle celui des outsiders, des exclus, pourrait-on dire. David Bowie a déjà découvert certains de ses artistes tout près de chez lui à Lausanne, à la collection de l'art brut, un fascinant musée situé sur les hauteurs de la ville et réunissant justement la collection assemblée par le peintre et sculpteur Jean Dubuffet.
Very good Bowie trip sur France Inter.
En Autriche donc, en 94, Bowie et Eno rencontrent certains de ses patients artistes encore en vie. Parmi eux, un homme fascine particulièrement David Bowie. Il se fait appeler l'homme-ange, Angel Man. « Je savais exactement qui j'étais avant le 5 février 1948 », lui dit cet homme, « parce que ce jour-là, je suis devenu un ange. »« Je me rappelle très bien », expliquait-il, « ça s'est passé juste après le déjeuner. » L'homme-ange, Angel Man, réémergera ainsi dans la chanson qu'on vient d'entendre, « I'm deranged ».« Je suis dérangé », un des sommets de l'album que signe David Bowie en 1995, intitulé « Outside ». On peut imaginer à quelle profondeur cette visite a pu résonner chez Bowie, lui dont le demi-frère, Terry, diagnostiqué comme schizophrène, s'est suicidé en 1985. Quant à Bowie lui-même, en tant qu'artiste, qu'a-t-il fait, sinon se projeter dans l'identité de personnages imaginaires qui lui ont donné des ailes, oui, mais qui ont aussi, comme le personnage de Ziggy Stardust, failli le dévorer et même le perdre. Une sorte de malaise et même d'effroi se dégage des musiques de l'album Outside, sans doute un des plus difficiles d'accès pour le profane de toute l'œuvre de Bowie, à l'exception notable de I'm Deranged et de la ballade Strangers When We Meet que j'ai diffusée en conclusion de l'épisode précédent. Les chansons de Outside constituent de fascinantes sculptures sonores. Comment les définir ? Une espèce de jazz industriel de haute précision exécuté comme toujours par des musiciens de premier ordre. Parfois, d'autres voix interviennent, d'autres avatars de Bowie surgissant de nulle part. Les morceaux glissent de l'un à l'autre avec la précision surnaturelle des séquences décousues d'un rêve et le plus souvent d'un cauchemar. Le tout a été assemblé à partir de longues improvisations grâce au patient travail de montage qu'a accompli Brian Eno en post-production. Pendant que ces musiciens improvisent longuement, sans même savoir parfois dans quelle tonalité ils doivent jouer, Bowie, dans le studio, a installé un chevalet et il dessine leur portrait. Il dispose également d'un ordinateur à partir duquel un programme lui permet de présenter sur un tableau, dans des colonnes, des mots et des bribes de phrases isolées, sans lien. Il peut les mélanger de façon aléatoire à la façon d'un jeu de cartes. C'est en somme la version numérique de la technique du cut-up théorisée par l'écrivain de la Beat Generation William Burroughs, dont Bowie se réclamait déjà une vingtaine d'années auparavant. Il conservera d'ailleurs pour les paroles des chansons de l'album Outside certaines de ses surprenantes combinaisons. De cette immersion totale dans l'expérimentation va ressortir un Bowie complètement régénéré. Guerre optimiste, catastrophiste même, on ne se refait pas, mais non sans raison, comme on le verra. Little wonder, little wonder, you little wonder, little wonder. L'angoisse prophétique de David Bowie en 1997 dans cette chanson intitulée « I'm Afraid of Americans ». J'ai peur des Américains. Elle figure dans son album Earthling, Earthling comme terrien. Oui, j'ai peur des Américains, j'ai peur du monde, j'ai peur de ne rien pouvoir y faire. Johnny est américain, Dieu est américain. Une des rares chansons signées David Bowie dont les paroles soient aussi littérales qu'explicites. Elle est née d'un séjour que le chanteur faisait sur l'île de Java, dans le sud de l'Indonésie. Et il était tombé là-bas sur un restaurant McDonald's qui venait d'ouvrir. Il s'est alors exclamé en lui-même « Ah non, pas ça, pas ici !» Il aura d'ailleurs l'occasion de préciser et nuancer sa pensée dans un entretien donné la même année, en 1997, au magazine britannique Mojo. On est obligé de se coltiner cet aspect McDonald's, Disney et Coca, cette espèce d'invasion culturelle insipide qui balaye notre monde. Et c'est malheureux, parce que les aspects de l'Amérique qui, à nos yeux, sont véritablement magiques, comme la magie noire, la poésie beat, sont justement les choses qu'elle-même rejette. Mais bon, conclut Bowie, il faut quand même que je fasse gaffe parce que mon groupe, c'est tous des ricains. Juste avant, une autre tonalité, une autre chanson, Little Wonder, une chanson étonnamment légère et souriante, malgré un peu d'agression sonore, dans laquelle David Bowie parvient à citer le nom des sept nains de Blanche-Neige. Et c'est la chanson par laquelle commence l'album Earthling que Bowie a enregistré avec ses musiciens juste à la fin de la tournée, ayant suivi la publication de l'album Outside. Publication d'ailleurs décalée d'un an, parce que Bowie a eu les plus grandes peines du monde à faire distribuer cet album, difficile il est vrai, aux États-Unis. Alors c'est flagrant quand on écoute ces deux titres. Dans ces années-là, David Bowie a épousé à sa façon de nouveaux sons, de nouveaux rythmes très singuliers, très nouveaux. Ceux qui électrisent les rave parties, ceux de la techno, mais enfin d'une techno particulière, spécifiquement anglaise, qu'on appelle jungle ou drum and bass. Qu'a incarné en particulier au milieu des années 90 le DJ et graffeur anglais Goldie, un DJ façonné par les sons du hip-hop, passé également par New York et Miami. Dans sa musique, Goldie recourt à des polyrythmies frénétiques de percussions électroniques, on appelle ça des breakbeats. Beaucoup s'en inspirent alors, notamment la chanteuse islandaise Björk, alors extrêmement proche de Goldie. Bowie est également subjugué dans ces années-là par un groupe de la banlieue est de Londres, The Prodigy, qui mêle de façon explosive ces fameux breakbeats à la furieuse énergie du punk rock. Bowie se fond dans ces ambiances, il plonge à la découverte des DJ dans les discothèques, il achète des maxis en vinyle qui rapportent enthousiaste à ses musiciens en leur disant « écoutez ça, c'est le nouveau son ». Ils ne sont pas toujours totalement convaincus. De son côté, le guitariste américain Reeves Gabrels, en compagnie duquel David Bowie a créé le groupe Tin Machine, lui a transmis sa passion pour le groupe Nine Inch Nails, je vous en parlais, qui assure la première partie de la tournée Outside de Bowie. D'ailleurs, il arrive que les deux groupes fassent quelque chose en commun. Derrière Nine Inch Nails, il y a Trent Reznor, et celui-ci a inventé une fusion absolument sans précédent entre le fracas de la musique techno-industrielle, l'énergie féroce du métal et des chansons au thème suicidaire et apocalyptique, sans jamais pour autant oublier la mélodie. C'est sans doute ce qui séduit David Bowie, qui plonge alors dans cette effervescence nouvelle. Il y retrouve ce qui l'avait fasciné dans la musique allemande, électronique, du milieu des années 70, en particulier chez un groupe qui s'appelait Neu, comme nouveau. La combinaison du technologique et de l'organique. Et être branché sur ce courant pour Bowie, en 1997, c'est vital. Au fond, quel serait pour lui l'autre terme de l'alternative ? Il le résume alors très bien, je cite « Je ne vais pas passer le reste de ma vie à vous balancer sur scène des chansons qui vous rappellent le jour où vous avez rencontré votre première femme. » David Bowie ne se sent vivant que si, d'une certaine façon, il est déjà projeté vers le lendemain. Sa curiosité et sa compréhension de ce qui est nouveau dans la société ne s'arrêtent d'ailleurs pas à la musique, il s'en fout. On le voit toujours, un journal, un magazine, un livre à la main. Et ses intuitions sont parfois étonnamment prophétiques. La chanson « I'm Afraid of Americans » qu'on a entendue a pu annoncer, d'une certaine façon, la vague d'anti-américanisme qui va embraser le Moyen-Orient, et pas seulement le reste du monde aussi, après les représailles militaires consécutives au fameux attentat du 11 septembre 2001. Un des aspects les plus captivants des intuitions de David Bowie concerne néanmoins ce qu'il connaît mieux que quiconque, l'industrie musicale. J'ai été stupéfié par les intuitions de Bowie qui semble avoir décrit en 1997, soit il y a 25 ans, le monde d'aujourd'hui. Je le cite. « Avec l'Internet, la musique va devenir comme l'eau courante ou l'électricité. » L'année précédente, il a été le premier musicien à mettre un titre directement en ligne. En 1997, toujours, il crée un webcast pour diffuser en ligne un concert de la tournée de Earthling. Aujourd'hui, en 2022, on a du mal à trouver un chanteur ou un groupe qui n'ait pas fait ça au moins une, deux ou trois fois. Alors je pourrais continuer longtemps comme ça. Ah oui, puis encore un détail qui n'en est pas un. Toujours en 1997, anticipant l'effondrement des revenus enfantés par les ventes de disques, Bowie procède à ce qu'on appelle la titrisation de ses masters, c'est-à-dire les bandes mères de ses enregistrements, 25 albums et 30 chansons. En gros, il fait un emprunt colossal de 55 millions de dollars gagés sur ses droits d'auteur discographique à venir et il introduit en bourse des obligations à 1 000 dollars chacune, les Bowie Bonds, qui rapporte un intérêt de 7,9% à ses détenteurs. Tout sera vendu en une journée. Bowie, à l'occasion, fait la couverture du Financial Times. Et comme il le dit alors, et au fond ça s'applique parfaitement à tout ce que je viens de décrire, « J'ai toujours voulu contribuer à la culture dans laquelle je vivais. »
All of my life I tried so hard, doing my best with what I had. Nothing much happened all the same. Something about
Thursday's Child, une chanson signée David Bowie et étonnamment romantique pour la période, l'année 1999, dans un album qui s'appelle Hours, Hours comme des heures. Une ballade que, là encore, Bowie chante d'une voix dans laquelle affleure toute sa vulnérabilité. Sans doute une des plus belles chansons de son répertoire. Thursday's Child, l'enfant du jeudi. Alors, c'est pas nécessairement lui, une vieille comptine anglaise porte d'ailleurs ce titre, une comptine qui égrène tous les jours de la semaine. Elle dit l'enfant du lundi a un beau visage, l'enfant du mardi est plein de grâce, etc. Et l'enfant du jeudi a devant lui une longue route. Voilà, Thursday's Child, c'est aussi le titre d'un livre qui avait marqué en profondeur David Bowie. C'était l'autobiographie de la chanteuse de jazz et de musical américaine Eartha Kitt. Il avait lu ça quand il avait, paraît-il, 14 ans. Alors pas forcément pour son contenu, mais pour la photo de la couverture. Il aimait beaucoup voir cette photo très suggestive de Eartha Kitt, une femme que Orson Welles considérait comme, je cite, la femme la plus sexy au monde. Voilà, alors le début de Thursday's Child, la chanson, est particulièrement déchirant puisque David Bowie chante d'une voix brisée, tout en serrant les dents, hein, pour ainsi dire. Toute ma vie, j'ai travaillé si dur, j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais. Les 10 chansons que réunit Hours sont très éloignées, vous vous en êtes rendu compte, des ambiances chaotiques, voire apocalyptiques, des deux albums précédents, Outside et Earthling, dans lesquels David Bowie avait à cœur de produire une musique surprenante, susceptible de créer l'événement. Ce qu'il était d'ailleurs en partie parvenu à faire. Alors la genèse de cet album, intitulé donc Hours, est assez inattendue. Sa musique est née en partie d'une commande passée au guitariste de Bowie, Reeves Gabrels, pour accompagner un jeu vidéo de conception française d'ailleurs, The Nomad Soul, hein, l'âme nomade, un titre d'ailleurs qui correspond on ne peut mieux à Bowie, et dans lequel un ou même deux avatars du chanteur apparaissaient. Alors cela dit, quand on écoute le résultat final, on a peine à discerner la moindre trace de cette origine. En revanche, on n'est pas surpris d'apprendre que la plupart des chansons composant Hours sont nées dans une sorte de paix et de sérénité. Enfin, une paix peu ordinaire, celle qu'on trouve sur l'île des Bermudes. Oui, une île, comme on sait, perdue dans l'ouest de l'Atlantique Nord, où David Bowie, grâce à la fructueuse opération des Bowie Bands, avait pu acquérir et faire restaurer une vieille maison de style colonial. Où son guitariste, Reeves Gabrels, l'avait rejoint, armé simplement de sa guitare et d'un modeste enregistreur à cassette. Dans Hours, Bowie semble, pour la première fois de sa vie, esquisser une sorte de bilan. Et voici ce qu'il déclare. « J'ai tenté d'évoquer un peu de l'anxiété et des impressions propres aux gens de mon âge. Il n'y a pas d'idée directrice, poursuit-il, ce ne sont que des chansons qui se succèdent, traversant le cœur d'un homme qui se retourne sur sa vie. » Alors, le plus étonnant peut-être, c'est l'illustration du CD. On y voit en effet pas un, mais deux David Bowie. L'image rappelle la sculpture de la Pietà de Michel-Ange, celle qu'on voit à Florence au musée de l'œuvre du Dôme, mais elle est comme inversée dans un miroir. La photo est dans les tons bleu ciel, dans le rôle de la Vierge Marie assise, le premier Bowie, tout en blanc, hein, il porte de longs cheveux noirs lisses, il est vêtu d'un blouson dont le col démesuré peut évoquer une paire d'ailes, et couché sur une planche toute blanche qui peut évoquer une table d'opération, un second Bowie, donc étendu, aux cheveux courts hirsutes, dont les vêtements également blancs évoquent quant à eux plutôt un linceul. Il a une tête aux yeux révulsés qui repose dans le creux de la main du premier. Un second Bowie, donc, en Christ mort et pas encore ressuscité. Bowie sent que la tristesse, le deuil, vont être prédominants dans le siècle nouveau qui s'annonce, le 21e siècle, qui ne présage rien de bon. Et la question que, intuitivement, David Bowie va mettre au cœur de sa quête, c'est ce qu'il appellera l'impiété, la disparition du sacré dans nos sociétés. Et là encore, il sent que quelque chose de tragique est dans l'air, qui se vérifiera au-delà de ses pires appréhensions. Sitting here wishing on the cement floor, just wishing that I had just something you wore. I put it on when I go lonely. Will you take off your dress and sell it to me? I miss your kiss and then I miss your head, and the letter in your writing doesn't mean
Mishka Assayas.
Said you took a big trip. They said you moved away. Happened oh so quietly, they say. Should've took a picture. Something I could keep by a little frame, something cheap for you. Everyone says hi. Said you sailed a big ship. Said you sailed away. Didn't know the right thing to say. I'd love to get a letter. Like to know what's what. Weather's good and it's not too hot for you. Everyone says hi. Everyone says hi. Everyone says don't stay in a sad place where they don't care. Everyone says hi. If the money is lousy, you can always come home. We can do the old things. We can do all the bad things. If the food gets you leery,
encore un classique de la période tardive de David Bowie, un des premiers du 21e siècle, Everyone Says Hi, une des plus belles chansons de son album paru en 2002, Heathen, comme impie, son plus grand succès international depuis près de 30 ans. Tout le monde te dit bonjour, la voisine d'en face, le locataire du dessus, papa et maman, et ton vieux gros chien aussi. Quelque chose du style tendre et nostalgique de Ray Davies et des Kinks dans cette chanson qui évoque quelqu'un qui n'est plus là. On m'a dit que t'es parti pour un grand voyage, que t'as déménagé, que ça s'est fait discrètement. Bowie évoque cette chanson, en fait, la mort de son père, Heywood, dit John, qu'il a perdu à l'âge de 22 ans, l'année 1969. Il évoque dans cette chanson une pensée qui vous traverse dans une telle circonstance et qu'il est impossible de chasser, c'est que la personne n'est pas partie définitivement, qu'elle a embarqué pour un long voyage dans un grand bateau, dit Bowie dans sa chanson, et que forcément, elle reviendra un jour. Quand mon père est mort, a déclaré Bowie dans une interview, j'arrivais pas à croire qu'il reviendrait plus jamais. Je me disais qu'il avait mis son imper et sa casquette et qu'il reviendrait dans quelques semaines. Juste avant, les érudits ont sûrement reconnu la reprise par David Bowie d'une chanson des Pixies, Cactus. Les Pixies, un groupe qu'il avait découvert avec enthousiasme, comme beaucoup d'ailleurs, à la fin des années 80 et qu'il adorait, paraît-il, écouter en voiture, tout comme Sonic Youth, qu'il avait beaucoup marqué. La version de Cactus des Pixies, que Bowie interprète dans l'album Heathen, et dans laquelle d'ailleurs il joue tous les instruments, guitare, synthétiseur, batterie, enfin tout, sauf la basse, et même lui qui chante les chœurs, fait de cette chanson une sorte de blues, un blues de la frustration, où il est question, d'ailleurs comme dans Everyone Says Hi, de l'absence. L'absence de l'être aimé. C'est violent, c'est douloureux. Je suis assis par terre sur ce sol en ciment. Je voudrais avoir quelque chose que t'as porté. Fais-toi saigner les mains sur un cactus, essuie-les sur ta robe et envoie-la-moi. PJ Harvey aurait pu écrire ça d'un point de vue féminin, mais c'est Charles Thompson des Pixies alias Black Francis qui l'a écrit. Et Bowie ne s'était évidemment pas trompé sur son talent. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur l'album Heathen, sorti donc en 2002, dans lequel David Bowie se révèle vraiment au sommet de son art. La pochette présente un gros plan de son visage, une photo en noir et blanc, où on le voit avec des yeux de poisson, hein, tout blanc. Heathen, je vous l'ai dit, le titre de l'album signifie « impie ». À l'origine, Bowie voulait mettre un tableau de Rembrandt, mais strié de peinture blanche, comme vandalisé. L'idée qui le hante alors, il n'est pas le seul, c'est que nous, société occidentale, vivons dans un monde désacralisé, où le sacré est bafoué et moqué. Tout a changé, chante-t-il d'ailleurs dans Sunday, la chanson par laquelle commence l'album Heathen, car en vérité, c'est le début de rien et rien n'a changé. Tout a changé, car en vérité, c'est le début. Iman, sa femme, vient alors de donner naissance à une fille, Alexandria, dite Lexi, et Bowie se sent investi d'une nouvelle responsabilité, il se demande avec angoisse, c'est le cas de beaucoup de parents, dans quel monde elle va grandir. Sa collaboration avec Reeves Gabrels a alors pris fin et David Bowie a rappelé auprès de lui son vieil ami Tony Visconti, celui avec lequel il avait fait ses albums les plus connus, en particulier ceux de la dite trilogie berlinoise à la fin des années 70, Visconti avec lequel il n'avait pas collaboré depuis plus de 20 ans. Et selon Visconti, je le cite, « Bowie aborde dans les chansons de Heathen la désolation de l'âme dans un monde sans Dieu et sans doute sa propre désolation aussi. » Bowie se trouve pris dans une contradiction extrêmement ordinaire au fond. Son bonheur privé est grand, il est à nouveau un jeune père. Iman est la femme de sa vie, mais le monde autour de lui le terrifie. Bowie, Visconti et leurs collaborateurs travaillent dans un cadre idyllique, un studio situé dans un paysage splendide, une montagne peu élevée, entourée de forêts au cœur de l'État de New York, surplombant un grand lac de barrage. Et comme à son habitude, David Bowie est extrêmement discipliné et productif. Il se lève tous les jours à 6h du matin, il passe près de 14 heures par jour en studio, et le soir, il continue encore d'écrire des mélodies et des paroles. Il joue de plus de divers instruments, saxophone, divers claviers et batteries. L'ambiance est idyllique et c'est dans ce cadre qu'il reçoit un appel téléphonique terrifié de Iman, resté dans leur appartement new-yorkais avec leur bébé. Une des deux tours jumelles a été attaquée, elle s'est effondrée et leur immeuble est à proximité. Elle voit la seconde s'effondrer à son tour. Bowie lui dit alors, prends la petite, sors, pars le plus loin possible. Ce qu'elle fait comme tant de new-yorkais. Alors, même si la plupart des chansons de l'album Heathen, qui sort en juin 2002, ont été écrites et terminées avant l'attaque, impossible de ne pas sentir flotter une sombre ambiance, un sombre pressentiment, ce que Bowie avait au fond pressenti toute sa vie et ses dernières années avec plus d'acuité encore depuis la naissance de sa fille. Une intuition sombre qui s'est avérée. Mes pensées se concentrent davantage encore sur ces questions. Nom de Dieu, où est-ce qu'on va et quelle espèce de tragédie est-on en train d'attirer sur nos têtes ? Je crois qu'on est condamné à refaire les mêmes erreurs qu'on a toujours faites. Pendant 2 ans encore, Bowie allait rester au sommet de sa concentration, de son talent et de sa lucidité, jusqu'à ce que le destin brutalement lui coupe les ailes. Friend,
have done for me. All you gave for free. I gave nothing in return, and there's little left of me. All the days of my life, all the days of my life, all the days I owe you. In red light pain, someone said try some. I tried some, now buy some. I bought some. Ooh. After a while, when I tried them, denied them, I opened my eyes and I saw you. Not a thing did I have, not a thing did I see, till I called on your love, and your love came to me. I've seen grey sky, met big fry, seen them die to get high. Oh, oh. I really see that I would only be lonely. I opened my eyes and I saw you. Not a thing did I feel, not a thing did I know,
une chanson très rétro, au style flamboyant, évoquant les productions de Phil Spector. Et pour cause, c'est George Harrison qui l'avait écrit « Try Some, Buy Some » une cinquantaine d'années auparavant pour l'ex-femme de Phil Spector, la chanteuse new-yorkaise Ronnie Spector. Et David Bowie l'a splendidement reprise pour l'album « Reality » paru en 2003, le dernier qu'il put réaliser avant longtemps. Puisque l'année suivante, il fut frappé sur scène en plein concert par une vive douleur qui se révélera être le symptôme d'un infarctus. David Bowie entamera dès lors l'ultime phase de sa vie qui le verra devenir une sorte d'homme invisible à New York avant qu'il ne vive une extraordinaire et ultime résurrection. Eh bien, c'est ce que je vous raconterai lors du prochain et dernier épisode de cette série. À la prochaine, donc.